L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde, du pain et
beurre. Être acteur culturel du territoire est l'une des missions que se donnent les librairies indépendantes. Cela signifie, pour les libraires, savoir identifier et promouvoir les autrices, les auteurs, artistes, associations, les créatrices et créateurs proches de la librairie. Ces gens d'art et de lettres sont ceux que nous défendons et dont nous portons les œuvres au regard et à l'oreille des lecteurs. Les librairies ne sont bien sûr pas les seules à avoir le goût du lien, le goût de la littérature. Vous écoutez L'Épluche Livre. Aujourd'hui, nous cuisinons le prix littéraire féminin pluriel.
M comme moi.
Non, moi.
Marcel monte sur sa moto et va au marché vendre des mirabelles. Marcel monte sur sa moto un matin de mai avec son marmot.
En cuisine avec nous aujourd'hui, Madame Valérie Briot-Ignatoff. Bonjour Madame.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présente à cette invitation.
Merci de m'avoir invitée.
Alors, vous êtes membre fondatrice de l'association Féminin Pluriel Montpellier Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus donc, de cette association, mais si j'ai bien compris, du réseau qu'il y a en amont?
Effectivement, il s'agit du réseau Féminin Pluriel, qui a été créé en 92 par Béatrice Lançon-Villa, qui à l'époque avait constaté qu'il y avait beaucoup de clubs professionnels masculins et pas, ou très peu en tout cas, de clubs féminins professionnels. Et sa motivation a été la résultante d'un refus de poste au motif qu'elle était une femme. Donc voilà, en 92, elle s'est dit, il faut que ça change, il faut que les femmes aient un poids, il faut qu'on puisse s'organiser, faire la même chose que ce que font les hommes et qui fonctionne très bien, et avoir un poids dans la société pour imposer nos règles, finalement. Donc, elle a créé le réseau Féminin Pluriel, qui est un réseau professionnel international, puisqu'il y a 19 clubs dans 13 pays différents. Chaque club est indépendant et sous l'égide d'une fédération qui s'appelle donc Féminin Pluriel Global. Donc on peut dire que la devise de Béatrice Lançon-Villa à l'époque, malheureusement elle nous a quittés, mais elle nous a laissé un héritage qu'on essaye de défendre. Donc sa devise, c'est « femme de vision, de cœur et d'action ». Parce que ce sont des femmes qui se rencontrent, finalement ont les mêmes problématiques, qui échangent, qui font du business, des affaires, mais pas que, puisque nous faisons beaucoup de caritatifs et d'actions, d'entraide, et pour venir au secours des femmes, principalement, bien sûr, et des enfants aussi. À Montpellier, nous avons créé le club Montpellier Méditerranée, Féminin Pluriel Montpellier Méditerranée. Lorsque Valérie Di Meglio est venue me demander si je voulais me joindre à elle pour cette aventure, j'ai dit oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc ça, c'était en 2012. Voilà.
Très bien. Comment on peut faire partie du club?
Alors, pour faire partie du club, les femmes qui font partie du club sont en général agréées par... elles ont une marraine. Et ce sont toutes des femmes d'origine complètement diverse. mais toutes leaders d'opinion dans leur domaine, en fait. Donc, mais ça peut être des chefs d'entreprise, des artistes, des professions libérales. Donc, c'est très, très varié. C'est justement la richesse de notre club. Et les rencontres font que beaucoup d'amitiés se créent entre nos membres.
Et en quoi ça engage de faire partie de ce club ?
Alors, nous avons des repas mensuels.
Oui.
Donc là, nous nous rencontrons en général autour d'un conférencier ou d'une conférencière. Donc sur des sujets très divers, des sujets économiques, politiques, artistiques aussi, culturels. Donc très, très variés et très riches. Donc c'est la présence, bien sûr, à ces repas et c'est participer aux différentes actions que mène l'association.
D'accord. Donc, vous disiez tout à l'heure 19 clubs dans 13 pays. En France, il y en a un seul ou il y en a d'autres ?
Non, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a Paris, bien sûr, parce que le premier a été créé à Paris, parce que Béatrice Lançonville a été française. Donc, le premier club est parisien. Après, vous avez Côte d'Azur, vous avez la Côte Basque, vous avez... Il y en a plusieurs.
Ce sont
je vais en oublier, certainement. Et à l'étranger, vous avez Bruxelles, Luxembourg, Dubaï qui est en cours, Berlin, enfin, Amsterdam, voilà. Vous avez l'Italie aussi. Donc j'en oublie, voilà, mais en tout, il y en a 19 en tout.
Oui, oui. Donc ce sont des clubs, du moins en France métropolitaine, du moins sur territoire, qui s'incluent dans un territoire à identité, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Oui,
Pays Basque,
oui, oui.
Côte d'Azur, Montpellier, Occitanie, c'est des identités assez fortes.
C'est pour ça que chaque club est indépendant, parce que nous sommes toutes différentes, nous n'avons pas du tout les mêmes problématiques sur le territoire et de l'entreprise, par exemple, ne serait-ce que ça. Nous n'avons pas du tout le même fonctionnement entre des Parisiennes, enfin un club parisien et le club de Montpellier Méditerranée.
D'accord. Et donc il y a ce réseau auquel peuvent participer les femmes, de quoi on bénéficie finalement dans ce réseau ? On y participe, c'est-à-dire il y a un côté culturel, culture professionnelle, culture au sens général, je l'entends bien, avec ses repas, avec ses intervenants. Mais au-delà de ça, quel est le lien, quels sont les liens qui sont créés par ce biais de club ?
Alors, le lien, c'est avant tout professionnel. C'est-à-dire que vous êtes là aussi pour créer, échanger et faire des affaires.
Voilà. Okay.
Ça, c'était le but premier. Mais ça ne nous a pas jamais suffi, si vous voulez, puisqu'on s'est aperçu que nous pouvions faire autrement et d'autres choses en étant justement un réseau reconnu et c'est pour ça que nous faisons des actions caritatives régulièrement, très diverses aussi, tout dépend, parce que beaucoup de membres sont aussi membres d'associations.
Voilà, et ça c'est la partie associative, donc, de Féminin Pluriel.
Oui,
c'est ça qui est la partie caritative.
Oui.
Une action que vous avez menée ou que vous allez mener,
par exemple, lors de nous avons fait l'action AGI, c'est-à-dire que contre les violences intrafamiliales se sont développées justement au moment de la période du Covid. Donc vous savez, c'est ce geste, on met la main sur l'œil, donc un geste, si une personne subit des violences intrafamiliales, voilà, elle peut faire ce geste.
D'accord.
Et il y a un numéro, voilà. Donc nous avons participé à un certain nombre de choses. Nous avons eu des commissions start-upeuses, par exemple, avec des membres de l'ESSEC pour pouvoir promouvoir justement des jeunes femmes. Et nous avons toujours pensé que finalement la figure de l'exemple était importante dans l'éducation des jeunes générations.
Oui, oui, oui.
Exemplarité.
Exactement, qui puisse se référer déjà à une personnalité image quelque part, c'est ça ?
C'est exactement ça,
ouais.
C'est exactement ça.
Okay.
On a besoin de se projeter et d'avoir un peu des mentors. Et je pense qu'on est là aussi pour justement transmettre. Je pense que c'est l'idée première de notre action, de nos actions, c'est de transmettre, c'est le passage de témoin aux jeunes générations. Je pense que c'est très important.
En effet. Donc, il y a ce côté entrepreneurial qui est très fort, ce côté réseau et mettre en place une vision féminine de l'entreprise et des voix fortes, des voix porteuses et leaders. Il y a aussi, donc, dans l'enjeu culturel, un prix littéraire, donc c'est ce qui est prétexte, c'est ce qui intéresse cette émission principalement aujourd'hui. Donc il y a eu une remise de prix en 2025, le 11 mars dernier, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, exactement ça.
Donc qui a été lauréate ?
Alors la lauréate a été Agnès Jésus-Pré pour son roman Les Eaux Noires, qui est un premier roman.
Aux éditions Liana Lévy.
Aux éditions Liana Lévy, c'est important, l'éditeur. Oui. Parce qu'on s'aperçoit en parlant avec les auteurs que les éditeurs... enfin, l'édition, c'est très important, que ce n'est pas évident d'ailleurs de trouver des éditeurs et d'avoir la visibilité voulue. Donc ce prix littéraire est né en 2016. Donc il est né parce que... si vous voulez, nous avons toujours aimé la culture féminin pluriel, parce que, par exemple, la mère de Béatrice Lanson-Villa s'appelait Livia Rêve et est une grande pianiste. Mm-hmm. Donc, on a toujours, voilà, elle a toujours souhaité que cette identité culturelle soit une marque de féminin pluriel. Valérie Di Miglio est chargée de mission mécénat et partenariat à l'Opéra Orchestre National Montpellier-Occitanie. C'est une grande lectrice, une grande amoureuse des livres. Donc elle, c'était la présidente fondatrice du club de Montpellier-Méditerranée. Mm-hmm. Moi, j'ai été, il y a de très nombreuses années maintenant, présidente départementale de culture et bibliothèque pour tous. Donc j'ai toujours lu beaucoup. Mm-hmm. Donc naturellement, en fait, ce prix s'est imposé. Quand, avec Valérie Di Miglio, nous en avons parlé à Béatrice Lanson-Villa, elle nous a dit mais quelle bonne idée. Donc voilà, c'est le club de Montpellier Méditerranée qui organisons ce prix et le réseau peut en profiter aussi et c'est centraliser finalement, c'est la défense aussi de la langue française. Mmh. Et mettre surtout en avant des jeunes auteurs, pas en âge mais en termes de, parce que ce sont des premiers romans. Éventuellement un deuxième roman, mais c'est principalement des premiers romans qui sont récompensés, et de manière à ce qu'on puisse donner une visibilité à ces femmes qui écrivent.
Donc ce sont des autrices de langue française ?
Oui, de langue française, oui.
Est-ce que sont privilégiées des maisons d'édition telles que Liana Lévy, qui est éponyme donc, de sa fondatrice et directrice, ou pas forcément ?
Non, pas forcément.
D'accord, très bien. Une petite question avant notre petite pause musicale. Comment on fonde un prix littéraire ? Par quoi on commence ?
Alors, nous avons commencé assez rapidement parce que nous sommes entourés de membres à Montpellier qui sont passionnés de lecture. Donc l'idée a vraiment réjoui tout le monde et je pense qu'on s'est mis au travail assez, assez facilement finalement. Ça n'a pas du tout été difficile. Donc je peux vous citer les membres du comité de sélection, parce qu'en fait, nous fonctionnons de la manière suivante, c'est-à-dire qu'à la rentrée littéraire, nous choisissons...
On en parlera,
on pourra en parler après.
Dans la
je
seconde
vais trop
partie,
vite.
Là, je me demandais juste, la première fois, quels sont les prérequis, en fait ? Est-ce qu'il suffit simplement de dire, bah, voilà, je fonde un prix littéraire et puis on en fait voie de presse ? Ou est-ce qu'il y a d'autres démarches ? Comment on construit la première édition ?
Nous avons choisi des livres et nous avons après décidé de donner aussi un montant, d'associer un montant à ce prix qui monte un peu en puissance. Effectivement, c'est un peu normal au fil des années. Mais nous avons commencé assez simplement en fait à choisir des livres, à les proposer aux membres du réseau francophone de féminin pluriel. Et après, nous avons fait la première remise de prix avec la librairie Gibert, parce que nous avons la chance d'avoir Sylvie Fontaine-Gibert, qui est membre de féminin pluriel. Donc, nous avions fait cette première remise de prix à Emmanuel Pirotte, au restaurant 1789, en plein centre de Montpellier.
Très bien. Petite pause musicale, chers auditeurs. Je vous laisse écouter le morceau choisi par notre invité.
Mm-hmm. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. Réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Maria. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller, elle va mourir là. Un enfant après une bonne journée pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria, il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi la maman, il y a tant de larmes. Jamais, jamais, jamais tu nous quitteras.
Vous écoutez Les Pluches Libres, nous sommes en compagnie de Valérie Briot-Inatoff. Madame Briot-Inatoff, pourquoi avez-vous choisi ce titre musical ?
Alors tout d'abord, j'aime beaucoup Aznavour, c'est une bonne raison. Et puis la mama, parce que j'ai perdu la mienne il y a quelques temps. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette chanson.
C'est très beau, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut désormais entrer vraiment dans le vif du sujet comme on avait déjà envie de le faire en première partie d'émission? Donc, comment ça se passe concrètement, la sélection, le jury pour le prix Féminin Pluriel?
Alors, nous avons un comité de sélection composé donc de membres Féminin Pluriel. Donc, nous avons Hélène Mandrou dans ce comité de sélection, donc maire honoraire de Montpellier. Valérie Di Meglio, qui est la présidente fondatrice du club de Montpellier Méditerranée. Christine Chabert-Lacaze, qui, je l'appelle affectueusement le nez, parce qu'elle a un flair extraordinaire. Elle nous découvre toujours des livres géniaux. Donc, elle lit beaucoup. Patricia Gardi, qui est universitaire, qui est docteur en sciences du langage. Mm-hmm. Antonia Davin, qui écrit des poèmes, qui lit en français, en anglais, en espagnol. Et puis l'aide des libraires. Donc nous sélectionnons en fait plusieurs livres, en général une quinzaine, entre 15 et 20 livres, premier roman à la sortie donc littéraire en septembre. Et sur ce nombre de livres, nous en sélectionnons 5 que nous proposons ensuite aux membres du réseau. Mmh. Et parmi ces 5 figure la lauréate, bien sûr, du prix littéraire.
D'accord. Donc, les membres du réseau peuvent voter pour le livre qui leur a plu.
Oui.
C'est bien ça.
C'est ça.
C'est les membres du réseau francophone ou mondial, comment on...
Oui, le
français uniquement.
Oui, les réseaux plutôt francophones.
Francophones, donc ça peut être éventuellement en Belgique ou si dans un club vous savez qu'il y a des bilingues ou des personnes polyglottes qui parlent français, elles peuvent participer.
C'est vrai qu'à certaines années, on est plus sur le club Montpellier Méditerranée, mais l'idée, c'est justement de proposer aux membres et de faire connaître aux membres du réseau.
D'accord. Donc, il y a un côté aussi fédérateur à l'intérieur du réseau.
C'est exactement ça, oui.
D'accord, très bien. Donc, ces titres que vous sélectionnez, vous dites que vous attendez la rentrée littéraire. Mais bon, votre prix a maintenant quelques années. Est-ce que vous êtes démarché un petit peu par des éditeurs ou des attachés qui vous proposent des services de presse en amont des parutions ?
Oui, oui. On commence à être démarché, effectivement. Oui, oui. Soit par des auteurs, soit des auteurs qui sont de la région, d'ailleurs. Parce qu'on essaie aussi de privilégier les auteurs du Sud, des mm-hmm. autrices du Sud de la France. Donc nous avons des auteurs qui nous écrivent en nous proposant effectivement les livres. Ou c'est arrivé aussi d'avoir des éditeurs qui le font aussi.
Et quels sont les critères de sélection ? Comment choisissez-vous un titre plutôt qu'un autre ? À la lecture, avez-vous un barème finalement assez objectif ?
Alors nous avons des critères objectifs, bien sûr, de sélection, puisque nous regardons effectivement la qualité de l'écriture, l'histoire, mais nous avons aussi notre subjectivité, bien sûr, parce que comme tout ce qui est artistique, nous aimons moins, mais en tout cas, nous avons de grandes discussions, mais nous arrivons à tomber d'accord sur les 5 finalistes.
Vous avez toutes des profils très différents. Vous avez présenté les profils donc, de vos consoeurs en réseau et en association. Quel est votre parcours professionnel ?
Mon parcours professionnel, je ne suis pas du tout dans le milieu littéraire. Je suis juriste en droit immobilier, donc ce qui n'a rien à voir. Mais j'ai toujours aimé lire. Donc j'ai encore chez moi toute la bibliothèque rose, verte, de mes lectures d'enfants. Et j'ai eu cette expérience pendant quelques années d'être présidente de Culture et Bibliothèque pour tous et formatrice de bibliothécaire. Donc j'ai toujours eu un amour très important pour la lecture, pour ce que ça peut représenter. C'est la lecture qui a plusieurs fonctions, finalement. La lecture qui éduque, qui nous apprend beaucoup de choses, mais aussi la lecture évasion, la lecture qui nous fait du bien quand on va mal. Donc voilà, je suis très sensible à la lecture et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités. Et j'ai moins de temps pour lire et j'en suis très malheureuse.
C'est vrai que la lecture est un temps volé peut-être au cours des choses. Hein. Il faut se l'approprier. Je suis d'accord avec vous. Vous avez apporté, je crois, donc un exemplaire du titre lauréat de cette année. donc un exemplaire du titre lauréat de cette année. Donc Les eaux noires de Agnès Jésus-Pré aux éditions Liana Lévy. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce titre donc, que vous avez aimé lire ?
Oui, beaucoup, beaucoup. Donc Agnès Jésus-Pré est biographe.
Oui.
Elle a un site qui s'appelle La Rembobineuse. Alors ce titre veut bien dire ce qu'il veut dire. On imagine bien, elle dit d'ailleurs qu'elle rembobine les histoires des gens. Donc des anonymes. Donc c'est, elle aime bien se définir comme une anonyme qui écrit les histoires de personnes qui sont tout aussi anonymes qu'elle. Et Les eaux noires, c'est l'histoire de Clara, ignorante. C'est une histoire vraie, en fait, qui a été racontée à Agnès Jésus-Pré bien avant qu'elle ne soit biographe. Et elle a été passionnée par l'histoire de cette Clara ignorante, hein, c'est pas son vrai nom, mais en tout cas elle a existé. En fait, les grands-parents de Clara sont grands-parents siciliens, se sont installés en Tunisie, alors sous protectorat français, pour fuir la misère dans leur pays au début du XXe siècle. Et Clara est née à Krombalaya, qui est une ville pas très loin de Tunis. Et c'est l'histoire de cette famille. Elle va les eaux noires. Pourquoi ? Parce que son père donc a bien vécu. Enfin, ils ont bien vécu. Il a eu une certaine réussite. Et puis après, ça a été la chute, puisque la Tunisie a été occupée 6 mois par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que je ne connaissais pas, d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre, puisque elle raconte les petites histoires dans la grande histoire, finalement. Les eaux noires, parce que elle pense que son père a été empoisonné, puisque au moment où les Tunisiens ont récupéré leurs terres, des cimetières ont été entièrement détruits, et les eaux noires exhumées de son père, les eaux étaient noires, donc probablement empoisonnées, et l'histoire, et l'histoire de cette famille.
J'ouvre les premières pages de ce roman historique, donc, et c'est vrai qu'au départ, page 11, donc on démarre la lecture juste après les dédicaces, d'ailleurs dédicaces dont on va pouvoir parler pour terminer l'émission, parce que je la trouve très belle. Ça démarre avec « Je vous maudis ». Donc les trois premiers mots sont quand même très très forts. C'est, et il y a le récit donc, de cette malédiction dont vous parlez, cette malédiction des eaux noires, c'est bien ça ? On démarre par ce souvenir-là ?
En fait, les deux premières pages du livre vous donnent la couleur, finalement, de ce que va être le livre, mais pas que, parce que en fait, cette histoire, et Agnès Jésus-Pré le dit bien, parce que nous avons eu l'occasion de beaucoup échanger ensemble, donc elle a eu cette histoire qui a été racontée par cette Clara, mais à certains moments, il y avait des passages qui manquaient, et Agnès Jésus-Pré, à l'époque, n'avait pas osé poser certaines questions à Clara, parce que elle ne savait pas ce qu'elle en ferait, finalement, de cette histoire. Et à un moment donné, elle a eu envie d'en faire un roman, c'est-à-dire qu'elle est partie de cette histoire vraie, mais il y avait des passages qui manquaient, et en fait, Agnès Jésus-Pré a dit j'ai réparé la dentelle. Je trouvais ça très, très, très joli, finalement.
C'est beau. C'est aussi le travail d'écrivain, cette broderie littéraire qui finalement consolide aussi le récit et permet à l'imaginaire de... Quelque part, il y a une vérité qui se trouve dans l'imaginaire. C'est quelque chose, en tant que lectrice, que je constate souvent. Il y a une vérité qui est dite et qui ne peut pas être dite autrement que par l'imaginaire. Oui. Vous avez eu ce ressenti dans la lecture ?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans ce livre, il y a un rapport à la vérité aussi, parce que lorsqu'on raconte ses souvenirs, parce que c'est un livre de souvenirs, finalement, lorsqu'on raconte ses souvenirs, est-ce qu'on dit la vérité, finalement ? Est-ce que le souvenir, finalement, ne va pas modifier cette vérité ? Et puis, est-ce qu'il n'y a qu'une vérité ? Non, je ne pense pas. Il y a plusieurs vérités. Voilà. C'est... Donc, elle a fait aussi, elle me disait qu'elle a fait des enquêtes. Donc, elle a essayé de trouver des paroles voilà, qui pouvaient venir étayer ce roman et faire le joli roman qu'il est devenu.
Alors, pour terminer, en parlant donc des vérités, on est tous à la recherche d'une vérité, mais on est surtout tous à la recherche d'un accueil, d'un endroit. Et la dédicace, donc, quand on ouvre le livre, juste avant d'entrer dans le texte, c'est à tous les migrants du monde, à ceux qui les écoutent et les accueillent. C'est quelque chose que vous portez par le réseau aussi ou par l'association ?
Oui, nous avons effectivement, nous intervenons et nous portons ce message en fait de bienveillance et de d'humanisme en fait, bien sûr.
D'accord. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin de cette émission.
C'est moi qui vous remercie.
C'était vraiment très, très chouette. Enfin, bon, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai énormément de chance de recevoir des invités de qualité depuis le début de ces émissions.
C'est très gentil. Oui.
C'est vraiment super. Je remercie donc nos auditeurs, nos auditrices, surtout.
Oui.
Une émission dédiée, ça fait du bien. Et je vous dis à très bientôt sur L'Épluche Livre. Au revoir.
Merci.
L'Épluche Livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange.
Des cornichons, de la moutarde, du pain de...